Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient, c'est une journée spéciale que vous propose RFI, une journée consacrée aux chiites et aux sunnites. Quand on vous parle dans nos différents journaux de la situation en Irak, en Syrie, au Yémen, en Arabie Saoudite ou encore en Iran, à Bahreïn également, eh bien il est impossible de ne pas mentionner la rivalité régionale entre chiites et sunnites. Pourtant ces deux populations sont issues de la même confession, l'islam. Alors comment comprendre cette guerre fratricide un an après la proclamation d'un califat par les radicaux sunnites du groupe État islamique? RFI vous permet de mieux comprendre les origines de cette rivalité, les enjeux de cette opposition, et pour l'occasion, durant les 20 prochaines minutes, nous répondrons à toutes vos questions. Vous nous rejoignez, vous êtes déjà un certain nombre au standard à patienter, mais vos questions nous intéressent, vous nous appelez 33 9 693 693 70. Si vous êtes en France, vous composez le 09 693 693 70. Dans la deuxième partie de l'émission, nous lancerons tout à l'heure le débat sur la crédibilité de l'ONU. Il y a tout juste 70 ans naissait l'Organisation des Nations Unies. Le monde sortait à peine de la Seconde Guerre mondiale. 70 ans plus tard, quel regard portez-vous sur l'ONU? L'organisation vous semble-t-elle indispensable? Une réforme est-elle nécessaire? En tout cas, de plus en plus de pays exigent par exemple l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU, la remise en cause des sièges des membres permanents ou encore la suppression du droit de veto. Vos réactions, elles sont nombreuses sur la page Facebook de l'émission, plus de 600 commentaires postés, j'en lirai quelques-uns tout à l'heure évidemment, pour alimenter le débat. Mais d'abord donc vos questions pour comprendre la rivalité chiite, sunnite. Nicolas Falaise, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Nicolas, vous êtes journaliste au service international d'RFI. À vos côtés, Karim Émile Bitard, bonjour.
Bonjour.
Directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Avant de passer au standard et d'accueillir un premier auditeur, Karim Émile Bitard, deux, trois repères pour planter le décor. Le chiisme et le sunnisme sont les deux principaux courants de l'islam. Les sunnites sont ultra-majoritaires.
Oui, les sunnites représentent entre 85 et 90% des musulmans. Les chiites sont toutefois majoritaires dans quelques pays importants, notamment l'Irak et l'Iran. Et ils ont une présence également importante au Liban, en Azerbaïdjan, une présence minoritaire importante au Pakistan. Donc c'est quand même une rivalité qui remonte au 7e siècle, qui continue de se répercuter, qui est à la fois religieuse, théologique, mais aussi et surtout aujourd'hui géopolitique.
On va passer au standard avec Pacôme, qui nous appelle d'Abidjan. Jean en Côte d'Ivoire. Bonjour Pacôme.
Bonjour Juan, bonjour à tous les visiteurs de RFI.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Merci. Oui, j'aimerais savoir quelles sont les origines de la division entre sunnites et chiites, mais encore quelles sont les différences qui existent entre eux?
Alors, ces deux courants sont apparus, vous le disiez, au 7e siècle.
Exactement, la date charnière c'est 632, c'est la mort du prophète de l'islam. Et comme toujours, les querelles les plus intenses, que ce soit dans les relations internationales, dans l'histoire des religions, les querelles les plus intenses, c'est un peu comme dans une famille, c'est les querelles de succession. Donc au départ, c'est une querelle de succession à la mort du prophète Mohammed. Qui est le plus à même de lui succéder? Qui est le plus qualifié? Faut-il choisir quelqu'un qui soit de la famille? Faut-il choisir celui qui est le plus pieux, le plus compétent, etc.? Il n'y avait pas de disposition très claire.
C'est-à-dire que Mahomet n'avait pas désigné de successeur.
Il n'y avait pas de disposition très claire. Certains estiment qu'il aurait souhaité que ce soit Ali qui lui succède. Ali était donc son gendre et son cousin. Et c'est précisément parce que Ali va être en quelque sorte court-circuité par d'autres prétendants, notamment Abu Bakr as-Siddiq, qui va être la figure de proue du courant sunnite majoritaire, que va naître dès cette époque-là un sentiment un certain ressentiment, un certain sentiment d'humiliation chez les chiites, qui va surtout se canaliser après la bataille de Karbala, où le fils d'Ali ben Abi Talib, donc Hussein, va être tué. Et depuis cette époque-là, on a le sentiment qu'il y a une certaine scénographie qui se rejoue avec ce sentiment, cette blessure originelle qui est à l'origine de cette grande discorde qui n'a jamais été cicatrisée.
C'est-à-dire que dès le 7e siècle, il y a eu des guerres, des conflits.
Il y a eu un certain nombre de conflits. Cela dit, on a tendance aujourd'hui, rétrospectivement, à étudier l'histoire de l'islam comme l'histoire d'un conflit sans fin entre sunnites et chiites. En fait, il y a eu de très longues phases de coopération qui ont succédé à des phases de conflits. Il n'y a en tout cas jamais eu dans l'histoire de l'islam des conflits aussi intenses que la guerre de 30 ans qu'il y a eu au sein du christianisme occidental au XVIIe siècle. Donc il ne faut pas non plus surestimer ces différences. Paco me demandait également quelles sont les différences. Donc elles sont somme toute assez minimes. Il y a bien évidemment des différences dans la façon de pratiquer le rituel, des différences dans la façon de percevoir l'après, l'eschatologie, la fin des temps, la nature du Mahdi. Va-t-il y avoir un retour, une réapparition du Mahdi? Mais en fin de compte, si ce n'était les querelles géopolitiques très contemporaines, notamment le conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, on en parlerait beaucoup moins. Il y a à peine 30 ou 40 ans, on parlait beaucoup moins de cette rivalité sunnite-chiite dans le monde arabe.
C'est justement cette rivalité, on en parle surtout depuis 79, c'est quand même une date importante, 1979, l'ayatollah Khomeini qui prend le pouvoir en Iran.
C'est la date charnière, c'est le retour d'un chiisme révolutionnaire, alors que le chiisme avait longtemps été quiétiste, c'est-à-dire plutôt apolitique, refusant cet engagement radical, cette volonté de transformer radicalement la politique. Donc 79 va être une date tournante qui va susciter en réaction une panique de certaines monarchies sunnites du Golfe qui vont tenter de contrer cette influence iranienne en promouvant certains courants sunnites radicaux.
Autre question au standard, Edbert nous appelle du Bénin. Bonjour Edbert.
Bonjour Juan Gomez et bienvenue chez nous à Parakou.
Parakou, au nord du Bénin. On vous écoute avec Nicolas Falaise et Karim Émile Bitar.
Alors Juan, parmi les sunnites, on distingue les salafistes. Alors, quelle est la particularité des salafistes?
Alors, qui sont les salafistes, Karim Émile Bitar?
Alors les salafistes, littéralement, sont ceux qui veulent vivre comme les salafs. Les salafs, ce sont les pieux ancêtres, ce sont essentiellement ceux qui vivaient précisément à l'époque du prophète Mohammed. Donc c'est une volonté de retour aux sources, d'un islam assez rigoriste, assez soucieux d'éviter tout contact avec une modernité qui viendrait le pervertir. Et on assiste depuis également une trentaine d'années à un retour en force d'un néo-salafisme, d'une volonté aujourd'hui de rompre avec tout le frottement qu'il y a pu y avoir avec d'autres cultures, d'autres civilisations, et d'en revenir à une interprétation très littéraliste
très
du Coran.
Très stricte.
Très stricte, très rigoriste, qui refuse de contextualiser le Coran, qui le refuse de le prendre comme une révélation intervenue à un moment donné de l'histoire, et qui veut le prendre littéralement à la lettre. Cela dit, au sein même de ce courant salafiste, il y a différentes mouvances. Il y a les salafistes djihadistes que nous connaissons, les terroristes, la plupart d'entre eux se rattachent à ce courant. Mais il y a aussi beaucoup de salafistes qui sont plutôt quiétistes, c'est-à-dire qui sont plutôt apolitiques et qui estiment qu'il faut obéir à la personne qui est au pouvoir, quelle qu'elle soit.
C'est un mouvement qu'on voit se développer de plus en plus en France, qui gagne du terrain. On l'a encore vu avec l'auteur de l'attentat de vendredi en Isère, Yacine Salih. Il a fréquenté les milieux salafistes. Hier, Manuel Valls disait « le salafisme est souvent l'antichambre de la radicalisation et du terrorisme ».
Il y a en effet un phénomène de prédication depuis les années 50-60, également pour des raisons géopolitiques. On a souvent fait appel à ces courants radicaux pour contrer le communisme pendant la période de la guerre froide, pour contrer le nationalisme arabe laïque également. On a trop longtemps financé, autorisé certains alliés de l'Occident à ouvrir leur manne financière à des groupes salafistes, à une forme d'islam particulièrement rigoriste de l'école wahhabite et salafiste, et à financer des écoles promouvant cette idéologie du Maroc jusqu'à l'Indonésie, et on commence aujourd'hui à en payer le prix.
Vous parliez tout à l'heure des différences entre chiites et sunnites, Karim Émile Bitar. On a justement Pascal qui nous appelle de Kampala. Bonjour Pascal.
Bonjour Juan Gomez.
Bienvenue, on vous écoute.
Oui, Juan, j'aimerais savoir quelles sont les différences entre les chiites et les sunnites dans leur pratique religieuse.
Dans la vie de tous les jours, les différences dans leur pratique de la religion.
Alors, déjà, beaucoup de similitudes. Les deux pratiquent les cinq piliers de l'islam. Les deux reconnaissent le même héritage, la même importance donnée à la vie du prophète, etc. Il y a quand même une différence notable qui est que chez le chiite, c'est constitué à travers les siècles, au fil des mesures, des années, des phénomènes géopolitiques, un clergé chiite qui joue un rôle très important. Et il y a une volonté plus ou moins de maintenir un certain décalage entre le politique et le religieux.
C'est-à-dire que chez les sunnites, il n'y a pas de clergé ?
Pas véritablement de clergé, c'est véritablement cela qui pose le problème aujourd'hui, c'est que chaque personne peut prétendre représenter elle-même l'islam véritable. Il n'existe pas d'islam véritable, il n'existe pas d'autorité suprême étant capable de déterminer ce qui relève ou ne relèverait pas de la révélation divine, ce qui fait qu'on a une individuation de la croyance et un phénomène de dizaines, centaines de milliers d'imams, parfois pas très au fait eux-mêmes de la religion qu'ils prétendent défendre, émettent toutes sortes de fatwa et prétendent représenter l'islam authentique.
Alors que chez les séites, l'imam est forcément un descendant de la famille du prophète ?
C'est cela, oui. Et ce qui est également préoccupant, c'est que selon les sondages établis par certains instituts américains, vous avez près de 40% de sunnites qui considèrent que les chiites ne sont pas des musulmans authentiques, précisément en raison de ce point que vous évoquiez, qu'il y a cette discordance dès le 7e siècle qui est apparue dans la façon de concevoir le lien entre le religieux et le spirituel. Donc aujourd'hui, le courant salafiste que nous évoquions est à la tête de ceux qui considèrent les chiites un peu comme des hérétiques, et l'État islamique se focalise aujourd'hui surtout sur l'ennemi proche que sont les chiites plutôt que sur l'ennemi lointain que sont les États-Unis.
Voilà, donc le clergé, la principale différence entre chiites et sunnites dans la pratique de la religion. 33 9 693 693 70. D'autres questions au standard. Souma, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Juan Gomez et bonjour à vos invités.
Nous vous écoutons, vous êtes à Avignon dans le sud de la France.
Oui, effectivement Juan, je voudrais savoir quelles sont les ambitions et les revendications des sunnites et des chiites dans la région du Proche-Orient. Et la rivalité entre ces deux communautés de l'islam explique-t-elle tous ces conflits dans cette même région?
Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce que le différent religieux est à l'origine finalement de tous ces conflits? Nicolas Falaise, un mot peut-être?
Oui, alors ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression de voir cette ligne de partage dans tout un tas de conflits ou de situations tendues dans la région. L'Irak, la Syrie, le Yémen, Bahreïn, le Liban, dès qu'on parle de l'Iran et de l'Arabie Saoudite et de leur rivalité, évidemment cette composante-là apparaît. Et c'est frappant finalement lorsqu'on repense à la situation de la région il y a 10 ans où le conflit israélo-arabe semblait finalement être le principal foyer de crise dans cette zone. Alors que s'est-il passé depuis ? On mentionnait tout à l'heure avec Karim Émile Bitar la révolution islamique de 1979 en Iran, mais on peut aussi se souvenir que dans l'histoire récente, après les attentats du 11 septembre 2001, les interventions américaines en Afghanistan et en Irak ont provoqué la chute de deux régimes voisins de l'Iran, deux régimes qui étaient hostile à l'Iran, l'Irak de Saddam Hussein et l'Afghanistan des talibans. Et c'est finalement cet épisode qui a une dizaine d'années a ouvert la voie au retour fulgurant de l'Iran comme puissance régionale, ce qui a entraîné à nouveau la crispation, l'inquiétude des monarchies du Golfe, arabes et sunnites, et qui a amener un certain nombre d'acteurs locaux dans les pays qu'on vient de citer à se positionner en fonction d'une ligne d'opposition qui recoupait parfois leur identité, leur appartenance confessionnelle, culturelle, religieuse.
Karim Émile Bitar.
Oui, Nicolas a dit l'essentiel. Je crois que la date la plus importante, c'est 2003. C'est l'invasion américaine de l'Irak qui est venue un peu bouleverser les équilibres régionaux. Jusque-là, l'Occident s'était souvent servi de Saddam Hussein comme d'un bouclier contre les ambitions iranienne, un bouclier, un verrou sunnite dans la région. La chute de ce régime a permis à l'Iran de revoir à la hausse ses ambitions, de gagner en influence en Irak et d'avoir une certaine continuité territoriale grâce à son alliance également avec le régime de la famille Assad en Syrie, qui est un régime issu de la communauté alaouite, une branche du chiisme, et son soutien au Hezbollah chiite libanais. Donc ces ambitions iraniennes se sont trouvées très fortement confortées par les erreurs américaines en Irak, et cela a suscité en réaction un véritable sentiment de panique chez les monarchies sunnites du Golfe qui ont su réagir en exploitant parfois la fibre communautaire et en jouant justement sur cette vieille ressentiment, sur cette vieille rancœur entre sunnites et chiites pour freiner la pénétration de l'influence iranienne au sein du monde arabe.
Il y a beaucoup de monde au standard, sujet qui suscite beaucoup de questions et on le comprend, la thématique est particulièrement complexe. Ibrahima, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes en Guinée, on vous écoute.
Voilà, j'ai deux questions. Ma première question, les Occidentaux ont-ils intérêt à soutenir une de ces deux communautés-là? Si oui, laquelle soutient-ils?
Ah, est-ce que les Occidentaux ont intérêt à entretenir justement les divergences confessionnelles pour asseoir leurs propres intérêts géopolitiques, Nicolas Falaise?
Alors, en termes de perspective et de possibles bouleversements, on peut prendre un exemple précis, c'est celui des États-Unis et de ce qui se passe en ce moment avec les négociations sur le nucléaire iranien. Est-ce que la crise du nucléaire iranien, en tout cas la résolution de cette crise, va ouvrir la voie à un dégel des relations entre Téhéran et Washington après 35 ans de rupture suite à la révolution iranienne? Alors, pour l'instant, du côté iranien, on affirme qu'il n'en est pas question, que ça n'est pas le sujet des discussions nucléaires. Mais on voit bien que c'est l'inquiétude des alliés traditionnels des États-Unis dans la région, que sont Israël d'une part et l'Arabie Saoudite et les autres monarchies du Golfe. On voit bien donc cette faille confessionnelle résonne avec les alliances traditionnelles des Occidentaux dans la région.
Karim Emil Bitar, les Occidentaux ont choisi leur camp.
Ce serait un jeu extrêmement dangereux que de choisir un camp. On a le sentiment que certains pays occidentaux se sont en effet beaucoup rapprochés ces dernières années de l'Arabie Saoudite et du Qatar, des puissances sunnites du Golfe, pour des raisons qui sont à la fois économiques, l'accent mis sur la diplomatie économique et les contrats qui commencent en effet à rentrer, notamment pour la France, grâce à cette friction entre Obama et les Saoudiens. Les Saoudiens essayent de récompenser un peu la France pour sa fermeté sur le dossier iranien. Mais ce serait un jeu dangereux. En Iran, il y avait longtemps un sentiment de francophilie chez la population iranienne et ils se sentent aujourd'hui un peu déconcertés de voir cette position française assez radicale. Et par ailleurs, lorsqu'on commence à toucher à ces sentiments communautaires qui remontent à très loin, on joue véritablement avec le feu et on pourrait, pour avoir des victoires tactiques à court terme, sérieusement compromettre la stabilité de la région sur le long terme.
Ibrahima, vous aviez une seconde question.
Oui, ma seconde question, quelle est la communauté la plus présente en Afrique?
Quel est le courant le plus présent en Afrique, les chiites, les sunnites?
Les sunnites, comme partout, sont majoritaires, mais il y a en Afrique un certain nombre de chiites. Il y a déjà pas mal de chiites, notamment en Mauritanie, pas énormément en proportion. Il y a des chiites d'origine libanaise qui sont très présents également dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Globalement, l'islam sunnite reste très largement majoritaire. Lorsque les chiites sont présents, les relations en Afrique ont eu tendance à se passer plutôt cordialement, sans qu'il n'y ait véritablement de friction très apparente, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentalisées à des fins très profanes.
Il nous reste à peine deux minutes, ce sera certainement la dernière question. Claude, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs des RFI et bon courage à Laurent Corot.
Merci de soutenir Laurent Corot, effectivement journaliste au service Afrique des RFI. Vous avez une question sur le Kinshasa, vous nous appelez de Kinshasa, vous avez une question, on vous écoute.
Oui, moi je voulais vous poser la question de savoir si la France est pro-sunnite, car nous avons remarqué ces derniers temps la diplomatie française s'est intensifiée avec la diplomatie de l'Arabie Saoudite qui est sunnite dans le domaine militaire et économique.
Oui, l'Arabie Saoudite qui est devenue effectivement un partenaire privilégié de la France. Est-ce qu'on peut dire, Nicolas Falaise, que effectivement la diplomatie française a choisi le camp saoudien ou en tout cas les sunnites?
Alors, je peux vous dire que la question a été posée précisément en ces termes à François Hollande dans l'avion qui le ramenait de Riyad où il s'est rendu le mois dernier, la capitale saoudienne, où il participait notamment à une réunion du Conseil de coopération du Golfe. Et la réponse a été très clairement non de la part du président français. Cela dit, Karim Emil Bitar le rappelait tout à l'heure, la position de fermeté de la France dans le dossier iranien est appréciée par les pays du Golfe, qui s'inquiètent par ailleurs des évolutions possibles des alliances américaines dans la région. Et on le disait, tout cela a aussi des effets économiques. Rappelons qu'entre la France et l'Arabie Saoudite, une vingtaine de projets commerciaux sont en cours de discussion et qu'ils se chiffreraient, selon les responsables français, à plusieurs dizaines 2 milliards d'euros.
Merci à tous les deux d'avoir été avec